Vous aimez la littérature, vous appréciez la rencontre des cultures, vous êtes amoureux des mots et des belles expressions. Retrouvez-nous dans votre émission Randonnée Nouveau Format. Avec Randonnée, allez à la rencontre de la littérature grâce aux écrivains invités, aux analyses des critiques et aux différentes chroniques. Randonnée, randonnée, c'est tous les samedis de 8h à 9h sur votre radio Canal FM. Rediffusion dimanche de 21h à 22h sur la 93.5. Grâce à Randonnée, la littérature togolaise, africaine et mondiale sont désormais à votre portée. Randonnée, une présentation de Anoumou Amekoudi et Pascal Lossou. Canal FM.
Notre mère nous avait conçus chacun à midi, mes deux frères cadets et moi, et nous avait accouchés dans la nuit, dans la douleur. Notre vie de misérable, desséchée par les rayons brûlants de midi, dégageait une puanteur acerbe que nul enfant de lumière ne désirerait. C'est le soleil qui m'a brûlé. Notre père, nous ne le voyions qu'une fois la journée, les midis où il n'était pas vraiment à nous. C'est notre mère qui nous criait déçue tous les midis. Allez-y accueillir votre père qui est arrivé. Puis il s'enfermait avec notre mère dans la grotte de noces afin de dépouiller les dossiers importants selon les propos hypocrites et mensongers des adultes. Chers passionnés de littérature, vous venez d'écouter l'extrait du récit « Les enfants de midi », récit publié par Kutukalo Tassim en 2020 aux éditions Aoudi. Merci, chers auditeurs, de nous suivre dans cette émission randonnée. Aujourd'hui, nous recevons, comme je viens de vous le dire, implicitement, Tassim Kutukalo, qui est venu pour nous parler de son récit « Les enfants de midi ». Bonjour, Kutukalo Tassim.
Bonjour, cher Anoum.
Comment vous allez?
Je vais bien, merci. Merci de m'avoir invité sur ce plateau pour dépouiller ensemble avec vous les enfants de midi.
Merci. On va en tout cas le faire ensemble, comme vous l'avez bien dit. Kutukalo Tassim, vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages. D'une dizaine d'ouvrages comportant des essais, des romans, de la poésie. Au nombre de ces ouvrages, on peut citer « Et si Dieu était complice », « Le retrait colonial », genre, identité et émancipation de la femme dans le roman africain francophone, je ne suis pas que négatif. Ma maison d'initiation, vous avez beaucoup écrit, hein, Madame Tassim. Et comme je le disais tantôt, c'est un mélange de tous les genres littéraires. Vous écrivez régulièrement, finalement. Ça se voit, ça se perçoit très bien. Quelle est la signification de l'écriture pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte?
Pour moi, l'écriture est devenue une passion. C'est un plaisir pour moi d'écrire, de partager ma perception du monde social avec mes lecteurs. Et je me dis que je suis maintenant incapable de ne pas écrire. Donc, je cherche le temps. Je n'ai pas vraiment le temps en tant qu'universitaire, et vous le savez très bien, vous aussi, vous êtes universitaire, qu'on n'a vraiment pas le temps. Mais lorsque je trouve un petit temps, alors je saute là-dessus. J'ai plusieurs chantiers que je mets, pas sous éteignement, que je laisse, je mets en veille, et puis dès que je trouve un petit temps, alors je reprends la plume et puis j'écris. Et quand je n'écris pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Oui. C'est ça mon problème. Ce qui fait que je suis obligée de produire par passion.
Par passion. Ouais. Voilà. Et comment vous vient l'inspiration? C'est-à-dire, est-ce que les thématiques de vos écrits, je dirais plus particulièrement littéraires, ou bien de fiction, est-ce que ces thématiques-là vous viennent un peu au hasard, ou bien c'est après avoir, par exemple, échangé avec des personnes que ce genre de thèmes vous viennent à l'esprit?
Oui, quelquefois, c'est après des échanges, comme le cas de
Les enfants de midi.
Mais d'autres fois, c'est juste de l'inspiration. Mais quand vous prenez mes ouvrages, les titres, C'est des palimpsestes, mes ouvrages, comme le dit Gérard Genette, c'est-à-dire écrire et réécrire.
Ouais.
Je cherche les titres jusqu'à ce que moi-même je sois convaincue que c'est le titre adéquat au récit, au roman que je suis en train de produire. Donc, c'est en quelque sorte cela. Et je parlais des enfants de midi.
Ouais.
J'ai reçu en 2017, je pense, deux étudiantes chez moi et avec qui je changeais, on parlait de tout et de rien. Et c'est l'une d'entre elles qui parlait de deux femmes qui se seraient rencontrées quelque part. Je pense qu'il y a eu un accident. L'une dit je vais appeler mon mari, l'autre dit je vais appeler mon mari. Et finalement, c'est le même homme.
Ah oui.
Voilà.
Et ça, c'est dans la réalité.
Oui. Bon,
ah oui, en tout cas, c'est ce qu'elle te racontait.
Ce qu'elle m'a raconté.
Okay.
Moi,
elle
je
vous
sais
a raconté.
Pas si
ouais.
C'est la réalité où,
ou pas.
Ouais. C'est des ragots qu'on a l'habitude de raconter.
Mais ça vous a inspiré.
Voilà, mais ça m'a inspiré. Mm-hmm. Parce que souvent, quand je cause et puis je reçois, je dis, de la bouche de quelqu'un, je dis, mais tiens, voilà, ça peut faire le titre d'un roman. Et puis après, je me mets à écrire. Voilà.
Ouais. Et puis vous mettez à écrire. Et là, comme on l'a dit, vous avez publié beaucoup de... Vous êtes là pour discuter amplement avec nous, les enfants du midi. Comment vous est venue cette idée d'écrire ce roman? C'est ce que vous avez venu de dire plus ou moins assez rapidement. Mais le livre de près de 100 pages que nous avons devant nous, avec nous aujourd'hui, ce livre de près de 100 pages raconte l'histoire d'une famille... où les enfants appellent papa notre père, maman notre mère, bien qu'ils soient déjà mariés, notre père, qui est en fait M. Kwaku, décide de prendre une deuxième épouse, qu'il rencontre régulièrement, uniquement que les midis, ce qui fait écho au test lu au début de l'émission. À la page 12, il y a un extrait qui vient illustrer un peu ce que nous venons de dire. À la page 12, vous écrivez « Notre père avait pris en mariage notre mère sur l'initiative de ses parents. L'idée fut accouchée par grand-mère qui convainquit grand-père de ce que leur fils avait l'obligation d'épouser une fille de sa famille à elle afin que ses biens restassent en famille. La première meuf est originaire de la même aire géographique que notre père, mais grand-mère la considérait comme une étrangère venue profiter des biens de leur fils en vue d'enrichir sa famille. Qu'est-ce que vous voulez dire dans ce paragraphe? Parce que ce paragraphe renferme beaucoup de choses. Il y a l'idée, par exemple, que celle qui est venue là ne va pas être utile, ne va pas être réellement, je dirais, ne va pas vraiment servir notre mari, notre fils, comme il le faut. C'est aussi l'idée qu'il faut épouser une fille de sa famille. Qu'est-ce que Sassim Koutoukalo a envie de nous dire là-bas?
En fait, c'est des problèmes qui ont existé et qui persistent dans notre société. Et souvent, la femme, du fait qu'elle vienne d'une autre famille, est considérée comme étrangère.
Ouais.
Mais lorsque Kwaku épouse sa première femme, sa maman n'a jamais apprécié leur couple. Du fait que celle-ci soit d'une autre famille. Donc, pour conserver les biens de la famille, les biens de son fils, alors il fallait prendre ou proposer une fille. C'est la fille à sa sœur aînée. Donc,
ouais.
Pour pouvoir... Donc, elle est sûre que la richesse, c'est en famille, la richesse ne va pas aller ailleurs, mais lorsque c'est une autre personne, dit, c'est pour enrichir les beaux-parents qui vont venir tout le temps demander ceci ou cela. Et c'est pour cela. Ce qu'il faut comprendre à ce niveau,
oui.
Monsieur Kwaku n'a pas vraiment voulu épouser la seconde. Donc, c'est sa mère qui la lui a imposée. Et finalement, il a accepté. Mais quand vous allez plus loin, vous allez constater qu'au fait, elle était amené la deuxième épouse, était transportée, je sais ce que je dis, était transportée comme un colis pour M. Kwok, puisqu'ils ne sont jamais connus, oui. Ils n'ont jamais fraternisé, échangé, ils n'ont rien fait du tout. Et puis on l'amène comme ça, on dit, bon, voilà, c'est ton époux. Mais ce que lui, il a apprécié, et qui, c'est le fait que ce soit lui qui l'ait défloré.
Oui, ça, on va voilà. Y revenir après, on va y revenir après, même tout à l'heure, votre développement peut expliquer. La raison pour laquelle leur relation même n'a pas vraiment marché. Exactement. Bon, mais en tout cas, on va y revenir, ou bien laisser les lecteurs aller chercher l'ouvrage pour mieux comprendre cette subtilité. Toujours dans ce paragraphe que je venais de lire, il y a deux langages qui sont ensemble, en fait. Vous écrivez cette phrase, « Grand-mère qui convainquit grand-père de ce que leur fils avait l'obligation d'épouser une fille de sa famille à elle, afin que ses biens restassent en famille. » Et après, vous écrivez la première meuf. C'est-à-dire, il y a ce mélange de styles qui est là. Et on va écouter, grâce à Olivier, notre technicien de ce matin, on va écouter une double question envoyée par une étudiante de l'ICICA, du semestre 5 de journalisme.
Madame Christine Kouchoukalo, bonjour. Je suis Solim Kayaba. J'ai lu votre œuvre Les enfants de midi et j'aimerais vous poser deux questions. La première est, quelle est la signification du titre de votre livre? La deuxième, au registre de langue utilisée dans votre récit s'ajoute l'argot. Pourquoi ce choix et quel sens véhicule-t-il à travers le récit? Merci.
Merci à Solim et là... Chassib, vous avez la parole pour répondre à cette double question.
C'est des questions assez pertinentes et qui prouvent que l'étudiante a vraiment lu l'œuvre et qu'elle a envie vraiment de cerner le contour de l'intitulé et ensuite la cohabitation de ces niveaux de langue dans le récit. Alors, je commence par le titre « Les enfants de midi ». Alors, lorsque quelqu'un le lit, j'avais utilisé une expression un jour lors d'une dédicace et la personne a dit que je l'ai insulté. Je n'insulte pas parce que les œuvres littéraires sont tellement truffées d'images que si vous n'êtes pas un lecteur avisé, tout de suite, vous allez faire des interprétations dans le sens dénoté, le sens premier des mots.
Ouais.
Donc, lorsqu'on prend les enfants de midi, midi, ici, peut être doublement interprété. Des enfants qui disent qu'ils ne voyaient leur père qu'à midi. À midi, ça peut se comprendre que c'est la mi-journée. Mais les enfants aussi conçus à midi, ça ne connote pas véritablement midi en tant que un temps de la mi-journée.
Oui.
Mais c'est des enfants qui sont conçus dans la douleur, nés dans la douleur. Et quand ils disent qu'ils sont nés dans la nuit, c'est nés dans l'ombre. La nuit, c'est l'ombre parce que la première épouse n'était pas au courant de leur existence. Oui. Là, c'est de l'ombre. Maintenant, midi... Pourquoi nous savons qu'à midi, les rayons, cela est dit dans l'extrait que vous avez lu.
Okay.
Donc, ils sont brûlés par les rayons, les rayons solaires de midi.
Ouais.
Et les rayons solaires ne sont autre chose que la douleur, les difficultés à acquérir l'amour paternel. Donc, c'est des enfants, midi, c'est la douleur qui est symbolisée par ces rayons qui brûlent. Donc, ce sont des enfants qui sont en manque d'affection paternelle, qui sont en manque même de jouer avec leur père, puisque leur père est tout le temps absent. Donc, c'est une métaphore. Ce n'est pas forcément midi en tant que temps de la nuit. Voilà, pour exprimer cette douleur-là. Et je donnais tout à l'heure dans le coulisses l'exemple de cet enfant conçu. Hors mariage, donc laissé par un, comment la appelle-t-on
un ancien premier ministre
voilà, un ancien premier,
de la Côte d'Ivoire.
Je voulais parler d'un ancien politicien.
Ok.
d'un ancien politique
ivoirien. Ouais.
Là, quand vous lisez le texte, c'est vraiment triste. L'enfant n'a pas demandé à venir. Et maintenant, lorsqu'il vient, il faudrait que le père assume. Le père meurt, l'enfant est inexistant complètement. Et ça, j'ai vécu cela, j'ai suivi un fait comme ça. Ici, chez nous, l'enfant et le papa, l'enfant et la mère avaient fait accident, ma seconde épouse.
Okay.
Et le papa et la mère ont perdu la vue.
La vie carrément.
Et l'enfant avait eu le bras fracturé. Mais à l'enterrement, l'enfant était comme un étranger. C'est-à-dire, la première épouse avec ses enfants était au devant, mais lui, il était avec...
On l'a marginalisé carrément.
Tout simplement. Ouais. Alors, vous voyez que ça fait mal pour des enfants comme ça. Donc, c'est des enfants de douleur, des enfants de midi, et puis bon, voilà.
Ouais, c'est en tout cas une belle réponse à Solim, mais Solim a posé une deuxième question.
La deuxième question...
Ouais, c'est par rapport au mélange des deux langages.
Oui. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que dans un ouvrage, il y a toujours plusieurs niveaux de langue qui cohabitent.
Ouais.
D'abord, premièrement, ici, la raison. C'est pour des raisons de variation lexicale.
Oui.
Alors, il faut varier le lexique. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que c'est un enfant qui raconte un récit. Donc, il faudrait que de temps à autre, l'univers ramène le narrateur. Le narrateur à son niveau
de langue.
Ouais. Et voilà les raisons qui peuvent être avancées, mais... La raison qui est valable au niveau de tous les ouvrages, c'est qu'il y a toujours cohabitation de différents niveaux de langue lorsque vous prenez un ouvrage, ou un roman, ou un récit. Voilà.
Okay. Merci. Vous avez aussi dit il y a quelques minutes que les enfants avaient des problèmes de, je dirais, étaient en manque d'amour de la part de leur père, puisque leur mère était là pour eux. Est-ce que le fait que les enfants étaient en manque d'amour explique l'utilisation de notre père et non de papa dans le texte? Parce que après tout, quand le narrateur parle, il dit notre mère, même si cette mère-là était là pour eux, il ne dit pas maman, papa, qui est une marque d'affection.
Exactement. Ici, c'est un récit qui est raconté avec une certaine distance. Voilà. Parce que, vous voyez, l'enfant utilise le nôtre qui est un adjectif possessif. Certes, c'est la possession. Ouais. C'est leur père, c'est leur mère, mais... Lorsqu'il raconte le récit, c'est avec distance, avec recul, parce que c'est la vie à ses parents, ce n'est pas sa vie. Et là, il les nomme par rapport à cette distance qui est prise dans la narration.
Merci. Après ces questions de Solim Kayeba, je voudrais savoir, ça c'est à titre personnel, et pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, à la première de couverture de Les Enfants de Midi, il est écrit récit. Il est écrit récit, on n'a pas écrit roman, on n'a pas écrit nouvelle, on n'a pas écrit essai. En tout cas, ce n'est pas un essai. c'est plutôt une œuvre littéraire de fiction. Pourquoi est-ce que c'est un choix de la maison d'édition Aoudi ou bien c'est le choix de l'écrivaine Tchati?
Oui, là, je vais être direct. Oui. C'est le choix de la maison d'édition. Parce qu'on s'est un peu tiraillé, l'éditeur et moi. Moi, je lui ai parlé de roman. D'abord, il avait intitulé l'ouvrage Nouvelle et je lui ai dit non. Il ne s'agit pas d'une nouvelle, parce que quand vous lisez, c'est le même personnage au niveau des trois
Ouais, des trois chapitres.
Voilà.
Ouais.
Donc, c'est le même personnage. Mmh. Donc, il ne s'agit pas d'une nouvelle. Et là, je dis, mais moi, je souhaiterais que ce soit un roman. Il revient et dit, non, ça ne peut pas être un roman parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnages. Bon, on ne s'est pas entendu.
Oui, sur la terminologie voilà. À mettre
donc,
finalement, sur le
livre. Je l'ai laissé faire.
Okay.
C'est ça.
Ok. Donc, il a fait son choix.
Oui.
Et les auditeurs vont essayer de l'interpréter à leur manière.
C'est ça.
Ouais. Quand on lit votre livre, votre récit, qui est très imagé, hein, très imagé, beaucoup de descriptions, à la page 13, par exemple, vous écrivez « Notre mère », en tout cas, votre narrateur dit « Notre mère était très belle comme une biche revêtue de son pelage soigné, lumineux et attractif à distance, belle comme une colombe transpercée par la lumière de sa candeur, corps frêle et teint noir ciré avec un visage aussi poli que de la cire, sa poitrine aux jumelles fermes, braquées et dures, dégageait la fraîcheur qui tapait dans l'œil des jeunes lionceaux de son âge. » Quand on lit ce passage, ça nous rappelle un peu des descriptions assez osées ou bien assez belles faites par Edem Kodjo dans Au commencement était le glaive. Mais finalement, j'ai envie de vous demander d'où vient cet art de la description.
Alors que...
Parce que vous décrivez bien, ce n'est pas seulement ce passage-là, il y en a d'autres hein, que je pourrais lire juste après votre réponse, il y a d'autres passages également qui illustrent cet art de la description, on a envie de continuer à lire.
Alors que quelquefois quand on écrit, surtout lorsqu'il s'agit de l'homme, de la femme, tout cela, il faudrait que le partenaire trouve une raison qui l'aurait poussé vers sa nouvelle conquête entre griffes.
Ouais.
Et ceci explique que M. Kwaku soit tombé dans le piège
De
ses parents,
ouais.
Voilà, dans le piège de ses parents.
Ouais.
Parce que là, d'abord, la fille était vierge, mais deux, elle était vraiment belle. Vraiment belle, que cette beauté-là, il ne pouvait pas résister face à cette beauté. Donc, ce qui explique que du coup, il était impressionné, séduit. Et là, quand vous continuez le récit, vous allez constater que malgré la distance, c'est-à-dire cette fugue, ou je ne sais pas comment qualifier cela, et que les parents cherchent à les réconcilier, quand il a vu son épouse en ce moment-là, ben, il n'a pas pu résister.
Ouais.
Donc, c'est pour décrire le personnage et puis expliquer certaines raisons qui expliquent, et donner certaines raisons qui expliquent le choix du partenaire. Mais souvent, la description donne des détails.
Ouais.
Ça donne des détails et puis ça donne envie de continuer la lecture pour décrire, pour découvrir ce qui est caché derrière cette description-là. Donc voilà ce que je peux dire.
Ouais, okay.
C'est toujours l'inspiration. Hein. Mm-hmm. C'est toujours l'inspiration. On veut vraiment donner peut-être de l'eau à la bouche.
Oui, oui, au lecteur.
Au lecteur.
Ouais. Et ça, je pense que vous avez réussi à le faire. À la page 14, vous écrivez « Du haut de ses 18 ans, le chant de notre mère ». On va se comprendre de quel chant il s'agit. Le chant de notre mère, C-H-A-M-P, était encore vierge. Aucun laboureur ne l'avait défrichée. Elle fut donc transportée de la campagne à la ville comme un colis à offrir à notre père. Heureux, notre père l'était. Un jour inattendu du marché de notre village, quand à midi, grand-mère lui livra l'information en ces termes. Je cite, « Allô mon fils, apprête-toi à célébrer tes secondes noces, car celle qui est appelée à devenir ta deuxième épouse nous sera ramenée à midi. » Ramener, colis, offrir, tout ça, c'est comme finalement, c'est pas d'une personne qu'on parle. Mais en tout cas, quand on lit ce paragraphe-là, on sent quelque part, quand vous dites, quand vous écrivez du rôle de ses 18 ans, le chant de notre mère était encore vierge, on sent de la pudeur dans votre langage. Alors que quand vous décriviez la femme à la page 13, ben, c'était, vous étiez à l'aise en fait. Pourquoi cette hésitation ici à nommer les choses comme il le faut, comme le faisait par exemple Calice Béala?
Oui, Béala, je l'aime bien. Je l'aime bien.
Mais c'est une autre personne.
Oui, oui. Je travaille sur ses œuvres, mais ouais. Je n'ai pas trop
aimé
cette description.
Okay. Parce que là, elles sont assez osées.
Ouais. Bon, c'est osé au nom de la liberté.
Qu'a l'écrivain.
Voilà. Qu'a l'écrivain de raconter tout ce qu'il veut et de quelque manière qu'il veut. Donc ici, c'est vrai qu'il y a un peu de pudeur, mais ce qui est recherché, ce sont les images. Ce sont les images et il faudrait que le lecteur parvienne à décrypter ces images. Alors, lorsque je parle de champs vierges, non labourés, est-ce qu'il s'agit de champs à sarcler, à labourer?
Ouais.
Lorsque ce champ-là est déplacé dans le cadre humain, qu'est-ce que cela signifie? Et je parle d'une fille. C'est pour parler de son intimité, oui. Qu'elle était vierge, donc elle n'avait pas encore connu d'homme. Et pour cette raison aussi, je sais que souvent les hommes se targuent d'avoir dévierger telle personne.
Il est le premier à...
Exactement. Et c'est ce qui faisait déjà la fierté pour M. Kouakou, parce qu'il se disait que je serais la première personne à défricher le champ de cette, j'ai dit, Made in Village.
oui. Ouais, cette Made in Village.
Voilà.
Oui. Donc,
qui est ramené comme un colis.
Comme un colis,
ici,
oui.
Je la compare à un colis parce que il n'y a jamais eu de contact
entre eux.
Entre elle et M. Kouakou, il n'y a jamais eu de sentiment entre eux. Et voilà que la maman dit, je t'ai amené celle qui va devenir ta femme. Pour lui, il n'y a pas de sentiment. Vous voyez que quand il arrive, c'est vrai, il apprécie, mais la suite du récit prouve qu'il n'a jamais aimé. Donc c'est comme deux personnes qui vivent, mais sans sentiment.
Et c'est, en tout cas, c'est sans sentiment, et peut-être que ça peut aussi expliquer, je dirais, le dénouement, ou bien la fin de ce récit. Mais on va peut-être laisser le lecteur aller chercher eux-mêmes la quintessence de l'ouvrage. On va écouter un morceau pour détendre un peu l'atmosphère, qui n'était pas tendue du tout, hein. Donc, avant de revenir, faut continuer avec notre invité.
Canal FM. About my life all alone. I'm gonna miss this town. I'm gonna miss this town. I don't know why you ask me to stay. I don't know why you ask me. I don't know why.
Canal FM.
Imagine
Canal FM.
Nous revenons dans l'émission de ce samedi pour continuer la discussion sur Les Enfants de Midi, œuvre de Kassim Kouchoukalo, œuvre publiée en décembre 2020 aux éditions Aoudi. Toujours parlant de la relation entre notre père, M. Kwaku, et sa deuxième épouse, à la page 15, vous écrivez ce beau texte. Vous écrivez ce beau texte imagé et très parlant. Je vais le lire pour les auditeurs. Il n'avait jamais oublié le premier midi qu'il avait passé avec elle, dans un duel corporel titanesque, pacifique et monstrueusement délicieux. À chaque fois qu'il la revoyait, ses effluves qui sentaient l'hymen de sa virginité remontaient des profondeurs de son âme excitée et incitée à aller vers un corps dont il était fier de savourer la succulence juvénile et d'humer le parfum et la fraîcheur des différents pôles vierges qui lui inoculaient leur venin sensationnel. Comment un venin peut être sensationnel? Il y a ça aussi, mais il y a également toute cette description, toutes ces images que vous nous faites découvrir, mais que vous nous amenez à découvrir. Quand on lit tous ces textes finalement, j'ai envie de vous demander pourquoi cette description assez, je ne sais pas comment dire,
assez
imagée.
C'est l'antithèse. Hein.
Ouais.
Le vénère.
Oui.
Mais, en fait, c'est le propre de la littérature.
Oui,
hein.
Ouais,
c'est
ouais.
Le propre de la littérature. Uh-huh. Et je me dis que j'avais parlé de cela sur les antennes de la TVT, où j'étais passée le 8 février pour parler également de Les Enfants de Midi.
Oui.
Au fait, quand on crée, si vous créez et que le style est mauvais, ça ne donne pas une bonne impression. Si vous créez également et que le contenu est mauvais, ça ne donne pas une bonne impression. Il faut que les deux aillent de pair, que le contenu soit bon et que le style soit bon pour permettre au lecteur d'apprécier et d'ailleurs de donner matière à réflexion au lecteur.
Oui, oui, oui.
Parce qu'on ne peut pas écrire sans image, sans rien, et le lecteur va lire...
Ça va être une lecture assez plate.
En quelque sorte.
Ouais.
Donc, je me dis que c'est la création qui fait de quelqu'un ou d'un ouvrage, un ouvrage littéraire. Il faut inventer, imaginer et créer des images. C'est ça qui donne de la valeur à un ouvrage. Quand c'est vraiment un texte qui peut être accédé, ne serait-ce que par les lecteurs...
les plus jeunes, de niveau un peu plus bas.
Voilà, un
ouais.
peu plus bas, là... Mm-hmm.
Ça ne donne pas de la crédibilité, ça ne fait pas vraiment... Ça donne pas en tout cas une bonne image de l'œuvre.
Exact. Et puis je dis, de par ma formation, je suis de formation littéraire.
Ouais.
Il faut que le lecteur ressente que... Ou du moins, si mes professeurs lisent, qu'ils sentent que...
Que vous avez assimilé ce qu'ils vous ont enseigné.
Et j'ai assimilé ce que j'enseigne aussi.
Oui.
Donc, je pense que c'est cela.
Oui.
Et c'est Audrey qui disait que, madame, vous ne pensez pas que l'expression fait trop fort, elle est trop forte pour... J'ai dit non, Audrey, je ne peux pas descendre. Parce que, là, on va me juger en tant que professeur d'université.
Oui, universitaire. Professeur titulaire de littérature africaine, voilà. Donc on va dire, mais elle a ce niveau et... Ok, ouais. Donc il faut écrire, ouais, c'est ça, il faut écrire selon son rang. Selon son rang. Et vous avez en tout cas continué, le cœur de notre père n'avait jamais été réchauffé par la Made in Village. Une expression que vous avez utilisée il y a quelques minutes aussi. un peu d'anglais qui vient dans le test, et par moments aussi, on voit également des titres d'œuvres comme C'est le soleil qui m'a brûlé, intertextualité quelque part, mais aussi cette création qui vous pousse à intégrer par moments dans vos tests Mamie, Made in Village. Oui.
Alors, c'est pour également exprimer la nature du roman aujourd'hui. Le roman aujourd'hui est un carrefour d'échanges linguistiques, échanges textuels. Donc, vous avez au sein d'un même roman plusieurs langues qui cohabitent et puis vous avez également d'autres textes qui s'y trouvent dans le texte. Oui. C'est la nature du roman aujourd'hui. Mais c'est par également fantaisie. C'est par fantaisie. Donc, de temps en temps, il faut introduire de ces langues-là pour qualifier. Peut-être que si je le disais en français, ça ne sera pas aussi intéressant
que de faire
usage de l'anglais.
De la langue anglaise.
Ouais. Alors, si je disais en français, cette...
Made in village.
Je traduis.
Cette venue du village, ou bien cette femme venue du village.
Là, ça n'a plus la même violence. Donc, ce qui fait que de temps en temps, on fait appel à ces langues-là pour... ressortir la succulence de qu'on veut la saveur la saveur qu'on veut donner au texte. Donc voilà les explications que je puis donner, mais est-ce que les explications que je donne le lecteur est libre
d'interpréter autrement les critiques littéraires qui sont aussi à l'écoute aussi vont apprécier l'œuvre autrement. Une évolution, ou bien disons, une première évolution négative est constatée dans la relation entre notre père et notre mère. À la page 21, on se rend compte que notre mère découvre l'existence, le narrateur écrit, notre mère n'avait que ses yeux pour pleurer. De la même manière que notre père trompait sa première épouse avec notre mère, il la trompait également avec d'autres femmes. Elle décida désormais de tuer à petit feu notre père dans son cœur. Elle nous suggéra de considérer que nous avions une mère, mais pas véritablement un père. Est-ce le début de la déroute du couple Kwaku?
Oui. Alors ici, le passage que vous avez lu concerne, je pense, la deuxième épouse.
Ah ouais, ça concerne la deuxième épouse.
La deuxième épouse. Okay. Parce que tout semblait aller bien quand M. Kwaku a fait la connaissance d'une jeune dame qui est embauchée dans son service.
Oui.
Et là, vraiment, l'écart entre sa femme et lui était devenu grand, ce qui explique qu'il est passé 3 mois. Sans
venir voir la deuxième épouse.
Sans passer voir la deuxième épouse. Et c'est dans cette affaire-là que la mamie de la maison avait conseillé à la deuxième épouse d'aller vers leur passeur qui saurait trouver solution à cette situation.
Oui, même avant le pasteur. Même avant le pasteur, notre mère ayant commencé, en tout cas, à ne plus dormir... Hein, son fils, en tout cas un de ses enfants, s'en est rendu compte une nuit, et l'a interpellé, elle dit non, elle va bien, tout cela.
C'est la seconde épouse.
C'est la seconde épouse,
c'est ça. Voilà.
Oui, c'est la seconde épouse, donc l'enfant lui dit si elle va bien, elle dit qu'elle va bien. Et après, finalement, elle s'adresse au curé. D'abord au curé, d'abord, avant le pasteur, non ou bien
Là, il faut vraiment faire attention,
oui.
Parce que c'est la première épouse qui s'est adressée au curé, puisqu'il s'est marié à l'église.
Oui.
Son premier mariage a été célébré à l'église. Et la première épouse va vers le curé lorsqu'elle constate qu'elle avait
une co-épouse.
Une co-épouse, et comment ça s'est passé?
Ouais.
Parce que les enfants... se sont battus à l'école, l'enfant de la première épouse est un des enfants de la deuxième
épouse.
Fréquentait la même école. Et ils sont battus, il fallait convoquer le papa. Et voilà que c'est le même papa
qui vient.
Voilà. Ouais. Et c'est en ce moment-là, suite à la déception de la première épouse, elle est allée vers le curé pour trouver consolation. Ouais.
Et pour trouver consolation, et une vraie consolation, non ou bien? Parce que oui, je pense que c'est une vraie consolation dans la mesure où finalement le curé prend la place de M. Kouakou.
Voilà.
C'est ça, il prend la place de M. Kouakou. Je ne sais même plus à quelle place ça se trouve, mais les lecteurs vont aller le chercher eux-mêmes. Ouais. Hein, cette référence, vont chercher la référence à ce que je viens de dire tout à l'heure. Maintenant, la deuxième épouse aussi s'est adressée à quelqu'un qui l'a finalement demandé d'aller voir un pasteur, qui l'a introduite à un pasteur. Et maintenant, quand l'a introduite au pasteur, le pasteur aussi, malheureusement, aussi abuse de cette femme-là.
Et donc, tirer profit.
Hein. Oui, tirer profit. Ouais. Mais finalement... Je voudrais savoir, est-ce que c'est pour dire que c'est pas, c'est une critique vis-à-vis de ces genres de personnes qui sont censées être là pour consoler les affligés, ces hommes de Dieu. Je ne voulais pas le dire clairement, des hommes de Dieu.
Oui. Ils
sont censés apaiser les cœurs.
Voilà, apaiser les cœurs parce que. Aujourd'hui, un constat est fait que dans les églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Et ce sont de pareils problèmes
qui les amènent vers là.
De la vie, qui les amène vers là. Et au lieu que le berger aide à la bergère à bien brouter, l'herbe... Là, ça a bien brouté l'herbe. Et ça devient un autre souci parce que là, quand la femme n'est pas vraiment forte pour se relever, alors là, c'est le chaos total.
Ouais.
C'est le chaos total. Et je les exhorte. Je les exhorte à vraiment aider ces femmes qui... Ils sont en difficulté, ces femmes qui ne savent où mettre la tête, à se retrouver spirituellement et socialement. Voilà, c'est ce que moi j'ai pu dire, parce que ils vont aussi donner leur raison, ou avancer leur raison qui leur amènerait à consoler autrement.
Ouais, oui. Est-ce qu'ils auront vraiment des raisons à donner? Je ne sais pas. Dans la musique, ils ont déjà fait quand même un vœu, le vœu de chasteté. En tout cas, les lecteurs vont apprécier. Ils vont apprécier. Maintenant que le pasteur a voulu abuser, en tout cas, de la deuxième femme de Kouakou, cette deuxième femme lui a quand même... répondu à sa manière, à la page 36, quand elle s'est réveillée, parce qu'on l'a, endormie par des produits, quand elle s'est réveillée, vous écrivez ici, elle se leva brusquement, telle une possédée en transe, agrippa son muscle baraqué d'une main et de l'autre ses couilles. Elle les tortura sauvagement son cœur. Il hurlait à mourir. Impuissant, le corps du violeur se retrouva au pied du lit, transpirant l'odeur de la douleur. Kouchikalo, Kassim, j'ai envie de demander, est-ce que c'est pour montrer au monde entier qui pense à tort ou à raison que la femme est inférieure à l'homme? Que ici, par exemple, cette femme, elle est supérieure à l'homme dans la mesure où elle lui montre ce dont elle est capable quand elle est atteinte dans sa dignité.
Exactement. Je ne veux pas parler de supériorité.
ou d'infériorité.
D'infériorité, mais je parlerai tout simplement d'une puissance qui s'empare de la femme lorsque elle constate que sa dignité a été bafouée. J'ai parlé d'entrer en transe. Donc, il y a une force qui s'empare d'elle et elle est en mesure de terrasser un homme.
Ouais.
Et elle sait par où passer pour la terrasser.
Ouais.
Et la femme a su bien le faire.
Ouais.
C'est pour dire que la femme était hors d'elle-même. Parce que elle a été endormie grâce à un produit.
Oui, l'éthanol.
Pourrait utiliser.
Mm-hmm.
Mais le matin, à 5 heures, le pasteur revient pour récidiver.
Mm-hmm.
Et c'est en ce moment-là que la femme s'est réveillée de son sommeil. Et là, elle n'a pas été tendre envers elle et envers lui. Pourquoi ? Elle n'a pas, ce n'est pas avec son consentement que le rapport a eu lieu. A été effectué.
Mm-hmm.
Et dans ce contexte-là, elle ne pouvait que se venger de ce que est désapprouvé. Cette vengeance désapprouve l'acte du pasteur. Donc la femme n'était pas allée avec l'intention
d'avoir des relations sexuelles avec le pasteur.
Exactement.
Elle allait parce qu'elle était déprimée.
Exactement.
Elle voulait du réconfort.
Exactement.
Et le pasteur a donné l'impression que le réconfort, il pouvait lui donner ce réconfort.
Alors vous voyez que quand vous lisez dans un premier temps, là, il a essayé de berner la
oui.
femme, essayé de l'endormir,
oui.
non, mais considère que ses enfants-là sont miens.
Ah.
Et puis bon, voilà, quoi. Et il croyait que ça allait marcher. Bon, malheureusement pour lui, ce n'était pas le cas.
Oui. On aurait voulu continuer pendant des heures, mais il y a toujours une fin aux bonnes choses. Donc on va peut-être s'arrêter ici, mais en vous donnant la parole pour que vous puissiez conclure, pour que vous puissiez peut-être dire aux lecteurs, aux auditeurs, pourquoi Les Enfants de Midi est une œuvre pertinente aujourd'hui.
Alors, je ne vais pas parler de la pertinence, c'est au lecteur
d'en juger.
Voilà, mais ce que je peux dire, Les Enfants de Midi est une œuvre qui exprime la douleur. Au début, la douleur de ces enfants, entre guillemets, abandonnés, qui n'ont pas choisi de venir dans ce monde et qui viennent et puis ils sont en manque d'affection paternelle, soit c'est des enfants quand ils sont conçus, le monsieur dit non, je n'en veux pas, bon, tu peux lui donner ton nom de famille. Alors vous voyez, c'est un traumatisme.
Ouais.
Donc c'est des enfants traumatisés. Ces enfants-là, moi je ne sais pas comment qualifier leur situation. Mais si on dit l'écrivain propose mais n'impose pas. Si les hommes peuvent épargner à ces enfants ce genre de douleur, je pense que ça serait une bonne chose. Voilà la conclusion que je puis donner. Et dans le même récit, ceux qui nous écoutent, j'ai parlé également de COVID-19.
Oui, on n'a pas pu aborder tout ça.
C'est pour conclure, j'ai parlé de COVID, un co-virage commun aux hommes de la Terre, parce que c'est la pandémie qui les vire de leur quotidien habituel. Voilà la conclusion que j'ai pu proposer.
Merci beaucoup, Tassine Kouchoukalo, d'être venue nous parler de votre récit, Les Enfants de Midi. Les auditeurs vont sûrement aller découvrir le reste du récit, le reste du récit dans la mesure où il y a eu des emprisonnements, au moins un double emprisonnement de M. Kouakou, pour plusieurs raisons. Donc on laisse les lecteurs aller chercher. Après le passage de l'écrivaine du jour, Tassine Kouchoukalo, nous allons continuer l'émission avec les chroniques, et la première chronique, c'est celle de l'actualité littéraire avec Yolande. Bonjour Yolande.
Bonjour Anoumou, bonjour à nos auditeurs, auditrices de Randonnée. Je vais très bien. Alors aujourd'hui, j'ai deux grandes informations pour vous et une proposition de lecture. La première sélection du prix Maison de la Presse 2021 dévoilée. Pour la première sélection de cette édition 2021, 14 titres ont été sélectionnés et ce début avis de la seconde sélection sera dévoilée et il n'y aura que 6 ouvrages en lice pour cette édition 2021. Pour rappel, en 2020, le prix Maison de la Presse a été décerné à l'écrivaine et éditrice franco-mauricienne Caroline Laurent pour son roman Rivage de la colère publié aux éditions Escale. Le prix édition de la presse est un prix littéraire français créé en 1970 sous le nom du prix des maisons de la presse. La mort de Dibril Tamzi Nian. Le 8 mars a emporté à 89 ans Dibril Tamzi Nian, un grand monument, un écrivain, un historien spécialiste de l'Empire du Mali. Et nous avons perdu une fois de plus une bibliothèque. Et comme le dit cet adage d'Amadou Ampateba en Afrique, quand un écrivain meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Alors Dibril Tamzi Nian fut un écrivain engagé et en 1960 a paru son premier livre, Soudiata, ou l'épopée Madeng, qui a connu un immense succès et qui est toujours enseigné dans les écoles en Afrique. Je pense que tout le monde a lu ce livre ou en a entendu parler. Et d'aucuns ne connaissent que ce livre, ce roman de Dibril Tamzi Nian. Mais il est auteur de plusieurs ouvrages comme Histoire des Madeng de l'Ouest, Le Royaume de Gabou, Les Recherches sur l'Empire du Mali au Moyen-Âge, Le Soudan occidental au temps des grands empires du 11e au 16e siècle, L'histoire de l'Afrique occidentale. Il a publié également deux théâtres, Sikasso ou La dernière citadelle et Chaka. Il a publié également deux contes, Contes d'hier et d'aujourd'hui et Contes de Guinée. En tout cas, son livre le plus connu reste Sunyata ou l'épopée Mandingue. Il nous a laissé un vrai trésor, que la terre lui soit légère. Proposition de lecture, je vous propose quoi? J'ai 4 livres ici, mais je vous propose Pète le corps, le 7e roman de l'écrivain d'origine togolais, Théo Nalesso, roman de 280 pages paru tout récemment, le 14 janvier 2021, aux éditions Gallimard. Alors, Pète le corps, c'est l'histoire de Maxwell City, un agent immobilier qui peine à gagner sa vie dans la capitale Lomé, de Magouille et de Vice. Et par après, Jean Adodo, son voisin, un voisin de Maxwell, lui propose des sous pour courtiser Mina, une jeune belle dame, enfin de s'en débarrasser. Par la suite, Maxwell City tombe perdument amoureux et de Mina et découvre dans la foulée que Jean Adodo et Mina ne se connaissent pas. Allez-y, perdez le corps, c'est le week-end, ça vous fera un grand bien. Et comme l'a dit l'auteur du livre, Tewan Anesso même, perdez le corps afin de mieux le posséder. C'est ce que j'ai pour vous, Anoumou, et à nos auditeurs et auditrices de randonnée. Rendez-vous samedi prochain. Merci.
Merci à toi Yolande pour ta chronique.
Randonnée, c'est tous les samedis de 8h à 9h sur votre radio Canal FM. Rediffusion dimanche de 21h à 22h sur la 93.5. Grâce à Randonnée, la littérature togolaise, africaine et mondiale sont désormais à votre portée.
On va écouter la chronique de Geneviève. Bonjour Geneviève.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce samedi matin. À la découverte de ce week-end, s'est intéressé tout d'un jeune artiste sculpteur togolais. Il s'agit de Gora Atiso, dit le sculpteur de géants. Gora Atiso est un jeune et talentueux artiste togolais qui sculpte des œuvres géantes en bois. À travers ses œuvres, il a été très vite reconnu à l'international. Assis sur un tronc d'arbre dans son atelier en train de tailler du bois, le jeune artiste âgé d'une vingtaine d'années se confie à nous.
Monsieur Gora, bonsoir.
Bonsoir.
Je sculpteur, dites-nous, d'où vous est venue l'inspiration?
Moi, l'inspiration est la manière que les humanités vivent sur la terre et comment le monde se transforme. C'est ça qui me donne l'inspiration.
Alors dites-nous, en tant que jeune sculpteur togolais, quel est le message que vous essayez de transmettre à travers vos œuvres?
message que je transmets, à travers mes yeux est que je n'ai pas voir la haine, je n'ai pas voir l'âme couler aux yeux des humains, parce qu'on est tous frères, on enfant de même couleur du sang. Donc on doit vraiment s'aimer, on doit vraiment protéger dans nos vies, on doit vraiment protéger notre environnement.
On sait que dans chaque type de métier, il y a des difficultés, mais dans le vôtre, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face?
Il y a beaucoup de difficultés dans le domaine de l'art, dans le domaine de sculpture, c'est très dur. Et chez nous, surtout, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais maintenant, ça va. Parce qu'il y a des difficultés, sincèrement, quand tu réalises tes œuvres, il y a des gens qui vont critiquer, ils ne vont pas t'acheter. Quand tu as véhiculé ce que tu vis, tu ressens, tu vis dans l'œuvre, tu ressens ce que tu as discuté avec l'œuvre avant de l'exposer, de montrer aux gens, il y a des certaines gens qui ne vont pas t'encourager. Et il n'a pas d'acheteur, il n'a pas de collectionneur vraiment chez nous.
Alors dites-moi, est-ce que dans votre métier de sculpteur, à part le bois, vous utilisez une autre matière?
À part le bois, j'utilise le ciment. Parce que je réalise les monuments de 12 mètres, de 6 mètres à 10 mètres.
Okay.
Et je fais du recyclage. Vous allez voir sur toutes mes œuvres, il y a toujours des recyclages. Je mélange les fers, tout ce que je vois, et j'utilise souvent les boîtes de conserve. Parce que les boîtes de conserve, ici chez nous, il y a beaucoup de moustiques. Si les gens consomment les tomates, des choses, et ils jettent n'importe où, si un moustique tombe dessus, bien, il y a un insecte qui tombe dessus, qui pique un enfant, ça donne autre chose. Donc souvent j'utilise ça, je donne des valeurs à ces choses pour dire aux gens qu'il faut vraiment penser de notre territoire noir.
Si vous avez un message à l'endroit de notre État togolais, quel serait le message que vous leur apporteriez?
Au Togo, c'est peu des gens qui achètent l'art.
Donc ça veut dire que le métier de l'art n'est pas reconnu au Togo?
Ça vient.
Ça vient, ok.
Oui, ça vient. Mais au Togo, c'est peu des gens qui achètent, souvent les étrangers. Et aussi, les Togolais qui veulent acheter nos œuvres, ils cassent vraiment plus de l'œuvre. Mais l'art n'a pas de prix. Mais la manière dont les choses sont chères, il faut qu'eux aussi regardent ce côté.
Alors dites-moi, si aujourd'hui, vous voulez que le gouvernement vous aide, vous, les sculpteurs togolais, puisque vous portez haut l'image du Togo aussi à l'extérieur, qu'est-ce que l'État pourrait faire pour vous encourager?
Premièrement, ce que moi j'aimerais que l'État fasse, les artistes togolais, les plasticiens, il faut une galerie par l'État qui expose vraiment les artistes togolais. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes togolais qui ont vraiment des talents. Mais si eux, si les gens ne reconnaissent pas ce qu'ils ont, comment eux, ils peuvent valoriser leurs talents? C'est pas tout le monde qui peut devenir artiste. Pas tout le monde qui va devenir artiste. Donc il faut que l'État togolais cherche un espace spécial pour les artistes créateurs, pour qu'eux ils puissent exposer. Il n'y a pas l'endroit qu'on peut exposer nos œuvres. Qu'on cherche des critiques et ouvrir la porte des galeries qui peuvent venir. Ou bien faire un concours, laisser un concours chaque année, faire voyager les artistes togolais au nord du Togo.
On espère que l'État est à votre écoute et que vos besoins seront satisfaits.
Au niveau de l'État, si un artiste fait l'exposition, le ministre doit sortir de venir voir l'exposition. L'autorité de banque doit sortir de venir voir l'exposition. Ce n'est pas seulement les blancs, les gens simples. Parce qu'on travaille pour nos pays.
Est-ce que le métier de sculpteur vous rapporte?
Moi, la sculpture, vraiment, c'est ma vie. Là, c'est mon travail. Donc, je vis de ce que je fais.
Quel est votre message à l'endroit de ces jeunes?
Toutes les choses, il y a toujours des difficultés. Faut pas jamais baisser les bras. Parce que dans la difficulté, tout ça, ça te donner des formations pour que tu sois prêt d'accueillir ce qui est derrière ça.
Je rappelle que Gora Atiso fera en avril prochain une exposition à l'Institut français du Togo autour du thème « Les langues pendues ». Faites donc massivement le déplacement pour le découvrir beaucoup plus davantage. Au revoir et à la prochaine.
Merci à Olivier, merci à Yolande, merci à Geneviève. Geneviève parlait d'avril prochain, on est déjà dans le mois d'avril. Donc, merci à vous, chers auditeurs, et vous pourriez nous suivre demain de 21h à 22h. Merci et bon week-end.